Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 16h.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble.
Eh bien voilà, bonjour, nous sommes le 2 avril, il est 16h. Nous allons aujourd'hui, avec nos invités, évoquer le thème de la solitude des aînés et de la lutte contre la solitude des aînés. Alors on peut situer l'événement de la canicule de 2003 comme un point de départ de la prise de conscience par les pouvoirs publics de la solitude des personnes âgées et de leur grande vulnérabilité dans les situations d'isolement qui ne sont pas souhaitées. Notre mission de ce 2 avril va se proposer d'évoquer les situations qui sont vécues par les aînés lorsque le lien social fait défaut, lorsque, vivant pour certains dans un grand dénuement, ils souffrent d'une vie dans un exil qu'ils ont rarement choisi. Et aussi d'évoquer des actions qui sont entreprises par des associations, des organismes comme les CCAS, qui tentent d'enchanter ces vies dans l'isolement. Alors, isolement, solitude et vieillissement sont souvent associés dans l'imaginaire collectif. Tout de suite viennent à l'esprit les images de vieillards au regard perdu, confinés dans leur fauteuil, épuisés d'ennui dans un centre d'hébergement ou à domicile, devant leur téléviseur, silencieux, seuls. D'ailleurs, les thèmes du vieillissement et de la solitude font parfois les gros titres de la presse générale comme la presse spécialisée. Je cite un article d'Ouest France qui relate la découverte d'une femme de 76 ans, célibataire, sans enfant. Elle était décédée depuis au moins un an, selon le médecin légiste, mais ça faisait plus de 2 ans que ses voisins ne l'avaient pas vue. Son corps a été retrouvé au sol, près de son déambulateur, dans un état qualifié par le médecin de momifié. Arnaud Campéon, docteur en sociologie et ingénieur de recherche à l'École des hautes études en santé publique, nous dit « Il est souvent admis que le vieillissement s'accompagne d'une désertification progressive des relations autour de la personne âgée, avec le risque que celle-ci finisse par se retrouver seule et isolée. » Il convient tout d'abord de nuancer ce genre de considération. En vieillissant, tous les individus ne sont pas condamnés à l'isolement, encore moins à la solitude. S'il est vrai que le réseau relationnel tente à se restreindre, la famille, par exemple, demeure souvent un point d'ancrage privilégié. En ce sens, le nombre de personnes âgées isolées ne représente qu'une frange minoritaire de la population âgée, qui, dans son ensemble, demeure familialement bien entourée. Cependant, même minoritaire, cette frange qui n'a plus de famille et ou qui n'a plus de contacts familiaux n'est pas négligeable. C'est du moins ce qu'a permis de mettre en lumière le drame de la canicule de l'été 2003, qui a révélé la vulnérabilité de nombreuses personnes âgées et surtout la détresse dans laquelle certaines d'entre elles ont terminé leur vie. Alors, c'était Arnaud Campéon. Au lendemain de la canicule, l'attention s'est d'ailleurs spontanément portée sur la condition de ces vieillards morts dans l'indifférence. Témoignage culpabilisant et dramatique d'une solidarité nationale en panne. Le 20 août 2003, Le Monde titre ainsi « Chaleur d'enfer, glacial individualisme ». Le Point, le 29 août, affiche « Canicule quand l'indifférence tue ». En soulignant l'égoïsme d'une société toute vouée au jeunisme et à la performance. Les titres jouent aussi sur la culpabilité. Ces vieillards morts dans l'oubli lors de la canicule, c'est Le Monde. 450 morts oubliés, tous coupables, c'est Le Parisien. Nous devrions tous avoir honte. Je passe sur d'autres titres tout aussi dramatisants. Au-delà de cette culpabilisation, si elle informe, elle a aussi vocation à accroître le tirage, un certain nombre d'acteurs déjà engagés depuis des décennies ou récemment créés ont entrepris de lutter contre cette solitude, de soulager cette souffrance, en recréant du sens, en reliant à nouveau les aînés avec leur environnement, et pas que les aînés d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui plusieurs invités que nous avons choisis parmi les nombreux intervenants autour de cette question. Isabelle, de l'association Les Petits Frères des Pauvres.
Oui, bonjour, donc Isabelle, je suis bénévole depuis de nombreuses années chez Les Petits Frères des Pauvres.
Julie, qui représente l'association T'as un ami.
Bonjour, oui, Julie, j'ai 21 ans, je suis étudiante à Lille.
Et Maurice, qui coordonne Ligne de Vie.
Oui, donc Maurice, j'irai jeune retraité de 68 ans et bénévole depuis quelques mois, on va dire.
À Ligne de Vie.
À Ligne de Vie, entre autres.
Alors, et Florent, qui représente l'association BAM Panguilla, le nord de la France, qui est également très engagé dans Ligne de Vie.
Oui, bonjour, effectivement, je suis Florent de l'association BAM Panguilla, le nord, très engagé dans...
L'action Ligne de Vie.
L'action Ligne de Vie.
D'accord. Je vais peut-être proposer à Isabelle de présenter les petits frères et en particulier l'action des petits frères autour de la solitude, en sachant que nous démarrons l'émission et on ne va pas tout dire tout de suite, mais il est important quand même de resituer, de reposer un peu cette organisation.
L'association Les Petits Frères des Pauvres est une très ancienne association puisqu'elle a été créée après-guerre. Et le but de cette association, c'est justement de rompre, d'œuvrer pour minimiser l'isolement des aînés, des personnes âgées. Autrefois, chez les petits frères, on disait nos vieux amis. Moi, c'était une expression que j'aimais beaucoup. Donc c'est le but principal de cette association, c'est de s'adresser à des personnes âgées, voire fort âgées. Ils peuvent rentrer dans l'association dès 50 ans, mais enfin de nos jours à 50 ans, on n'est pas âgé. Sauf que certaines conditions de vie peuvent avoir sacrément abîmé les personnes, auquel cas elles sont déjà entrées dans la vieillesse. Et nous avons plusieurs centenaires parmi nos aînés dont nous avons la charge.
À vous écouter, je repense à une phrase de Bernard Hennuyer qui disait on est vieux comme on a vécu. C'est-à-dire que on constate que par exemple les cadres supérieurs ont une espérance de vie 10 ans supérieure à celle des ouvriers.
Exactement.
Qui ont souvent la double peine pour les vieux ouvriers, c'est justement cet état de santé qui est aussi et cette solitude quelquefois avec quelquefois un dénuement financier
tout va ensemble en fait, parce que on dit petit frère des pauvres. On a l'impression que c'est stigmatisant, le mot pauvre fait peur, mais c'est aussi pauvre de relations et c'est principalement ça en fait. L'isolement, la précarité financière induit l'isolement et l'isolement, c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que les conditions de vie difficiles font vieillir plus vite, ça c'est indéniable.
Alors, une question, parce que est attaché aux petits frères des pauvres un aspect religieux ou en tout cas lié à une foi, et peut-être la foi catholique, je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? C'est encore ça?
Au départ, oui, c'était ça. Armand Marquiset, qui est le fondateur de notre association, avait une orientation vraiment catholique, puisqu'il a même envisagé à un moment au tout début de la création de cette association d'en faire même un ordre religieux. Et les autorités de l'Église ont estimé que non, ça n'avait pas lieu d'être. Enfin bon, ça ne s'est pas fait. Mais depuis, alors ça je suis pas trop spécialiste de l'histoire des petits frères, mais depuis plusieurs années maintenant, toute référence à une religion quelle qu'elle soit a été supprimée. Donc nous n'avons rien de religieux, c'est une association laïque qui accueille absolument tout le monde, bénévole comme personne âgée. Il n'y a pas besoin de présenter un certificat de baptême. D'accord. Pour rentrer dans l'association. Il y a néanmoins, un substrat spirituel de base, mais qui peut concerner tout un chacun. Mais c'est une association laïque et il n'y a pas de connotation religieuse.
Et d'ailleurs, on dit plus souvent les petits frères que les petits frères des pauvres.
Les petits frères, oui. Voilà. Oui, tout D'accord. à fait. Et même maintenant, nous avons un nouveau logo, là, depuis quelques mois. Ce n'est plus les petits frères, c'est petits frères des pauvres.
Petits frères, d'accord. Voilà. Eh bien, on va revenir tout à l'heure ensemble sur les petits frères. Vous nous expliquerez comment ça se passe, cet accompagnement. Julie, si vous voulez bien nous dire deux mots sur T'as un ami.
Oui. Alors, T'as un ami, c'est une association d'aide aux personnes isolées qui est née à Lille en 2014, qui compte aujourd'hui un peu plus de 500 bénévoles. Et donc, le but, c'est de réaliser des binômes d'amitié entre une personne isolée et un ou une amie bénévole, donc complètement volontaire. Et on est présent dans plusieurs villes dans les Hauts-de-France, aussi dans d'autres régions en France et à l'international.
D'accord. L'international en Inde, je pense.
Oui, c'est ça. On scolarise les enfants orphelins en Inde. On commence à se développer là-bas. Et donc le but, c'est d'aller voir une personne. Alors ça peut être dans des EHPAD, dans des hôpitaux, des centres médicalisés, même à domicile. C'est tous les âges. Ça peut être du 18 ans à plus de 100 ans. Donc on va voir la personne, on parle avec elle, on lit, on écoute de la musique, on fait des activités. Et le but, c'est vraiment de renouer un contact avec cette personne, de même lier une complicité, une amitié. Et c'est souvent 2 heures par semaine, ça peut même être mettre plus.
Donc on va entrer plus tout à l'heure en matière sur la façon dont vous travaillez les uns les autres, mais on est plus sur un binôme qui accompagne une personne.
Oui, on se concentre sur une personne, parce que déjà c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la personne au début, on apprend à la connaître, à l'aider. D'accord. On peut aider dans les activités en groupe, dans les EHPAD par exemple, mais non, c'est vraiment,
attaché à une personne. Et le spectre de l'intervention, vous avez dit sur le territoire, on est surtout sur le Nord ?
Alors oui, il y a 15 villes dans les Hauts-de-France, mais il y a aussi dans 5 autres régions en France, Paris aussi notamment. Et voilà, pour l'instant international, c'est Inde surtout.
D'accord. On va faire une petite pause musicale pour avant de poursuivre avec Barbara. Alors, les chanteurs qui consacrent la solitude parlent souvent d'amour et des moments où celui-ci s'en va. C'est souvent plus facile d'aborder la solitude de cette façon-là et plus romantique et peut-être plus attirant. Qu'elle soit chantée, cette solitude, par Beko, la solitude ça n'existe pas, ou Moustaki, Johnny, Sardou, plus récemment Kenji Girac. Tous savent qu'elle ne durera pas, en tout cas pas trop longtemps. Mais pour la solitude des aînés, c'est pas tout à fait la même chose. Alors Barbara, c'est un peu autre chose, même s'il s'agit d'amour. Barbara, je vous rappelle qu'elle s'appelait Monique André Cerf. Elle était née en 1930 à Paris. Elle est décédée en 1997. Je cite, quand elle parle de la solitude, « La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Allez, va-t'en porter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. » Barbara, nous sommes en 1964.
Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse d'amour morte, elle m'a suivie pas à pas, la garce. Que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits, désolée la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder aller. Va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, tes ennuis. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui va, à cœur battant. Avant que ça ne le reblème, jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas, maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle m'a fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude. La solitude.
C'était Barbara. On poursuit notre tour de table avec nos invités. Je vous rappelle que vous êtes sur 106,6 FM Radio Campus, notre émission Ensemble, tous ensemble, autour de la solitude des aînés. Maurice, dites-nous un peu ce qu'est Ligne de Vie. D'abord, qui vous êtes, si vous êtes présenté, mais qui vous êtes et ce que vous faites à Ligne de Vie.
Oui, alors tout d'abord, Ligne de Vie n'est pas une association ou une structure associative comme les petits frères des pauvres, où t'as un ami, mais une action portée par le CCAS de Villeneuve-d'Ascq en direction des Villeneuvois et une action visant donc à lutter contre la solitude des aînés. Donc au sein dans le cadre de cette action, je suis chargé de la coordination
et la coordination de l'équipe bénévole qui porte véritablement, qui travaille véritablement sur le, en direction des aînés, et chargée aussi des de l'interface avec le CCAS, une structure que je connais particulièrement bien pour y avoir travaillé pendant quelques années.
Donc on est bien sur là, un service qui appelle les aînés.
C'est un service qui appelle les aînés, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, tous les lundis matins entre 9h30 et 11h30 midi.
Et vous avez combien d'appelants bénévoles ?
Alors on a démarré à 3 appelants, on est en moyenne maintenant 6, 8, parfois 10 appelants pour une centaine, 80 à 100 personnes appelées chaque lundi matin.
D'accord. Parmi ces appelants, il y a donc tout un pool de bénévoles autour d'une association, enfin plutôt membre d'une association qui a, me semble-t-il, dès le début de cette action, qui a démarré...
En octobre 2016.
D'accord. Voilà. Et donc, une association qui s'appelle Bampanguilla, le nord de la France. Donc, Florent représente cette association. Alors, Florent, parlez-nous peut-être d'abord de votre association et puis de ce que vous faites à Ligne de Vie.
Oui. Alors, Bampanguilla, le nord, c'est une association franco-africaine qui a été créée il y a de cela 13 ans. C'était justement pour rompre l'isolement, parce qu'il n'y a pas que les aînés qui sont isolés. Parmi nous, les jeunes, je dirais les jeunes les plus âgés, on a senti tout de même cet isolement, en ce sens que lorsqu'il y avait un décès, on se retrouvait seul à régler le décès. Hein, et souvent, on se heurtait à des problèmes administratifs.
Alors, il faut dire que vous êtes, c'est une association qui a été créée par des personnes qui viennent du Congo.
Le Congo, Brazzaville, précisément. Oui.
Brazzaville, ne pas mélanger avec l'autre, Kinshasa. Et Bampanguilla, ça veut dire
les amis ou les frères et sœurs de la région du nord de la France.
Voilà, d'accord. C'est un dialecte local, enfin du
Congo.
Tout
à fait.
D'accord, voilà. Très bien. Et donc, vous êtes combien de bénévoles dans cette association ? Combien d'abord d'adhérents dans cette association ?
Au niveau des adhérents, nous sommes actuellement 90.
D'accord. Et donc, comment vous êtes arrivé à Ligne de Vie, alors ? Comment ça s'est passé ?
À Ligne de Vie, c'était pour répondre un peu à la demande de la mairie, hein, et nous avons sauté donc sur l'occasion pour également nous impliquer à la vie
de la
ville de Villeneuve-d'Ascq.
De la cité, oui. Hein,
et donc c'est pour cette raison que nous avons répondu oui, et depuis, ça se passe très bien.
D'accord, d'accord. Et vous êtes donc plusieurs bénévoles de Bampanguilla, le nord de la France, à chaque lundi matin. Mais il y a aussi d'autres bénévoles. Il y a aussi des personnes qui ne viennent pas de Bampanguilla.
Non, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il y a des citoyens, citoyennes, pardon, de Villeneuve-d'Ascq qui viennent participer avec nous à cette action.
D'accord. Hein? D'accord. Alors, on va essayer de creuser un petit peu Ligne de Vie. En même temps, je questionne Maurice et Florent. Mais comment ces personnes, comment vous avez les coordonnées de ces personnes ? Comment connaissez-vous les situations de ces personnes qui doivent être appelées ?
Alors, c'est sans doute là la plus grande difficulté, le repérage, l'identification des personnes en situation de souffrance de solitude ou en situation d'isolement. Au démarrage, nous sommes appuyés sur la liste détenue par les services du CCAS et reprenant les personnes identifiées dans le cadre du plan canicule ou plan grand froid. Et puis aussi quelques signalements de la part des services d'aide à domicile, restauration à domicile, aide à domicile ou des établissements nous identifiant telle ou telle personne.
Mais alors, il y a quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, c'est dans le cadre de la RGPD ou autrefois de la protection des données, le CCAS n'est pas censé vous donner les listes des personnes. Est-ce que les personnes étaient d'accord pour être appelées? Comment c'est...
Alors, bien évidemment, le premier contact, on leur présente l'action. On recueille leur avis, leur accord oralement, et les personnes qu'on appelle régulièrement ont toutes signé un consentement.
D'accord.
Disant qu'elles acceptaient de ce contact avec ligne de vie.
D'accord. D'accord. Alors Florent, oui. Quelle est la formation des appelants? Est-ce que vous avez été formé à ce contact, cette relation d'aide dans laquelle vous vous trouvez?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut signaler une chose. La plupart d'entre nous sont des travailleurs sociaux.
Des éducateurs, des travailleurs
moi-même,
sociaux.
Moi-même, j'ai été éducateur spécialisé. Il y a des comment on les appelle?
Des auxiliaires de vie.
Voilà. Et le contact facile nous permet déjà d'appeler facilement les personnes âgées. Il faut dire une chose, au départ ça n'a pas été facile.
Oui.
En tenant compte de l'accent que nous avons, deux fois ça...
Ça choquait ? Ça choquait, ça surprenait. Oui.
Hein?
Ah oui.
Et puis au fur et à mesure que nous avons progressé dans notre action, ben, on s'est rendu compte qu'en fait... Les barrières ont commencé à tomber facilement. Oui. Et depuis, quand on oublie d'appeler un aîné, c'est l'aîné qui appelle.
C'est lui qui vous appelle?
Oui.
Vous vous dites, alors, mon petit rendez-vous.
J'ai pas eu mon petit coucou du lundi matin.
D'accord.
Okay. Donc ça fait chaud au cœur.
Ah oui, absolument.
Voilà.
Et alors, Maurice, lorsque, par exemple, une situation, vous êtes amené par un bénévole appelant, la personne se dit, bon, tiens, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ou la personne a dit, moi, j'ai des gros soucis, et que le téléphone n'y peut rien, comment ça se passe? Il y a une suite?
Alors, chaque fois qu'il y a manque de contact ou difficulté de contact après quelques semaines, je fais remonter au service du CCAS et, on essaie d'avoir des éléments, peut-être là où on appelle un membre de la famille pour avoir d'autres nouvelles. Soit la personne est partie dans sa famille, soit elle est hospitalisée, soit bon. Mais il y a toujours une suite. Toujours.
D'accord. Eh bien, écoutez, on va donner la parole maintenant au petit frère. On imagine que le genre de suite, ça peut être vous qui vous en occupiez. C'est-à-dire, le contact téléphonique, c'est une chose, mais le contact physique, c'est aussi autre chose.
Oui, exactement. J'étais en train d'y penser. J'ai dit, tiens, ça serait à nous de prendre le relais. Parce que, justement, il arrive un moment où, effectivement, la rencontre en vrai, je dirais, en chair et en os, devient indispensable.
Mais même si, pour avoir une fois assisté à ça, même si au téléphone, il peut se passer des choses très chaleureuses.
Ah, bien évidemment.
Je cite simplement quelque chose, une chose à laquelle j'ai assisté. Et je pense que Florent, c'était vous qui étiez cette fois-là au téléphone. Lorsque la personne appelée annonce que c'est sa date d'anniversaire, qu'est-ce qui se passe, Florent?
Alors, elle m'annonce que c'est sa date d'anniversaire. Et je lui souhaite donc bon anniversaire au nom de toute l'équipe.
Mieux que ça, même.
On lui a chanté une chanson.
Voilà.
Ça l'a tellement ému.
Oui.
Elle nous dit, mais vous vous rendez compte? Je suis seul et vous me chantez mon anniversaire.
Ouais.
C'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est vrai. Mais... Et puis, à un moment donné, elle ne savait plus quoi dire, en fait.
Ouais.
Elle était tellement émue. On s'est dit, bon. Alors, en retour...
Oui.
Elle nous a chanté une chanson. Waouh!
Ouais.
D'Edith Piaf.
Hein?
Mais avec un timbre de voix d'une jeune fille.
Hein?
Ça nous a tellement émus. Tous, on s'est retrouvés autour du téléphone pour l'écouter.
Hein?
Vous voyez? Cet échange, c'est quelque chose, moi je pense que... de très important,
hein,
même si physiquement on ne se voit pas, mais n'empêche que à travers le téléphone, on s'est senti très proche.
Ouais. Ça me rappelle une phrase que j'ai déjà citée sur ces ondes, c'est, je ne sais plus de qui elle est, mais celui qui ne sait pas donner ne sait pas ce qu'il perd.
Exact.
Alors, on parlera tout à l'heure, on va revenir au petit frère, on parlera tout à l'heure de ce que ça vous fait à vous, bénévole, hein, et de ce que ça vous apporte. C'est-à-dire que, est-ce que vous y trouvez votre compte aussi en tant que personne ? Isabelle, alors, je vous ai interrompu sur les petits frères. Donc, vous allez à domicile et vous faites cette rencontre, on va dire, in vivo, avec les personnes.
Exactement. Le but de notre bénévolat, le principe de base, c'est que nous rendons visite à des personnes donc âgées, isolées, comme ma voisine, à domicile, en EHPAD, en foyer logement, tout type d'hébergement, puisque nous considérons que un EHPAD, même s'ils sont dans un lieu collectif, ils ont quand même leur chambre, et donc c'est du domicile, hein, c'est la rencontre.
Ça veut dire aussi, on va pas partir déjà sur cette piste, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais peut être seul aussi, on peut se sentir seul en EHPAD.
Alors là, je pourrais vous en parler pendant des heures.
On va voir si on a le temps de reparler ça.
Voilà, donc le principe, c'est une visite une fois par semaine, d'une heure ou deux heures, selon comment ça se passe. Chez les petits frères, on essaye de toujours être en binôme, c'est-à-dire que ce sont deux personnes bénévoles qui rendent visite à une personne âgée, mais alternativement. Quand je parle de binôme, c'est-à-dire que nous allons rendre visite, par exemple, à Georgette une semaine sur deux. Une semaine, c'est moi. Une semaine, c'est Valérie. En général, nous avons donc, nous, en tant que bénévoles, à accompagner deux personnes, puisque le but, c'est en principe une visite par semaine. Donc nous accompagnons chacun deux personnes, mais en binôme. L'intérêt de la chose, c'est que déjà la personne âgée isolée a deux amis. Elle reçoit la visite de deux personnes. Et nous, en tant que bénévoles, ça nous permet de croiser des regards sur une même personne. On a chacun notre perception de cette personne. Et c'est indispensable parce qu'on peut très vite se fatiguer en tant que bénévole dans l'accompagnement. C'est très enrichissant, un accompagnement, mais ça peut parfois être difficile. Et quand on est en binôme, c'est vraiment indispensable.
Alors, vous abordez un aspect, il y a plein de questions qui me viennent, bien sûr, mais vous abordez un aspect qui est aussi important, c'est que pour tenir dans le temps, les bénévoles sont forcément, ce sont des êtres humains. On est, quand on est face à quelqu'un qui souffre, on est soi-même une personne, on n'est pas désincarné, on a soi-même son paquet d'histoires et son paquet de souffrances, et ça doit retentir quelquefois. Est-ce que la question que je me pose, mais je la pose à tous les invités, si vous avez à un moment ou un autre la possibilité d'y répondre, comment fait-on pour tenir dans la durée?
Alors déjà, nous travaillons en équipe, c'est-à-dire que sur le territoire, sur tous les territoires de France, les petits frères sont organisés en équipes territoriales, les équipes d'action territoriale, sur un périmètre géographique défini. Moi, par exemple, je suis dans l'équipe de FIV, de l'île FIV, le quartier, et nous intervenons sur le territoire de Mons, de Saint-Maurice-Pelvoisin, Hellem et FIV. Et nous avons vocation maintenant à nous étendre sur Villeneuve-d'Ascq. Et donc, nous avons le travail en équipe est très important. C'est-à-dire qu'on a des réunions d'équipe une fois par mois ou une fois toutes les six semaines où justement on partage nos accompagnements, on évoque les difficultés, un lieu de parole. La notion d'équipe est essentielle, c'est-à-dire que effectivement, nous nous rendons seuls au domicile de la personne, mais la personne accompagnée est portée collectivement par l'équipe. Et tout le monde connaît Georgette, Maurice, etc. Ça, c'est extrêmement important. On n'est jamais seul. On est appuyé sur une structure qui est extrêmement solide. On a des formations régulièrement avec des professionnels de gériatrie, des psychologues, des gens qui interviennent dans ce domaine-là. Et on réinterroge en permanence notre bénévolat, et ça c'est essentiel dans la durée.
D'ailleurs, les petits frères sont, je pense, sont porteurs un des porteurs de Mona Lisa.
Oui.
On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que je pense que aussi Ligne de Vie a bénéficié de formation aussi de Mona Lisa. Voilà. Julie,
oui.
Dites-nous un peu comment t'as un ami, comment ça se passe quand on est chez t'as un ami et qu'on accompagne, qu'on va visiter des aînés.
Alors, tout simplement, au début, on nous place, on va dire, soit en EHPAD, soit dans un domicile, soit dans un hôpital. Et donc moi, on m'a placée auprès d'un résident dans un EHPAD. Et au début, on ne connaît pas du tout la personne. Donc il y a une journée de présentation, on va dire. On est face à la personne avec un référent qui nous aide, voilà, pour parler. Et après, on va tisser une relation, semaine après semaine, avec ce résident. Donc soit ça accroche et on voit qu'on aime parler avec le résident, que ça se passe bien. Parfois, on peut avoir du mal. J'ai eu un cas où moi j'avais eu un peu plus de mal, mais on ne forcera jamais la personne, ni à parler, ni à faire une activité, ni à parler d'elle. Nous, on n'a pas la prétention de vouloir tout savoir de la personne. C'est elle qui parle, c'est elle qui vient nous voir. Et on tisse un lien, et quelques mois après, moi je vois que la personne a envie de nous revoir, même elle se prépare pour nous recevoir. On peut lui écrire, on peut lui envoyer des cartes, même l'appeler. Voilà, c'est un lien d'amitié. On dépasse le côté plus bénévole qui aide.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien de dépendance qui risque de se créer ?
Alors, nous, notre travail, c'est d'avoir quand même suffisamment de recul. On ne peut pas considérer non plus que c'est quelqu'un de notre famille. Où il faut avoir ce recul en se disant, voilà, la personne peut être âgée, peut avoir des problèmes de santé, et je vais la voir pour l'aider, pour partager avec elle. Mais oui, il faut faire attention à ne pas être trop investi.
Alors, la dépendance, je pensais pas uniquement à vous, je pensais aussi à l'aîné qui peut espérer ou investir affectivement, émotionnellement, et donc qui peut être quelquefois pris par cette relation. Et lorsqu'elle, parce que les bénévoles, bien, quelquefois, ils se fatiguent ou ils partent sur d'autres pistes de bénévolat, et peut-être à ce moment-là, il y a une rupture difficile à vivre.
Alors moi personnellement je ne l'ai pas vécu.
D'accord.
Parce qu'on essaie toujours de soigner un peu cette relation, en tout cas de ne pas passer de moment où on voit un résident à un délaissement complet, on essaie de garder quand même une...
D'accord, je vois Isabelle qui hoche de la tête.
Oui, donc... oui absolument, c'est-à-dire qu'il faut être très vigilant en tant que bénévole, à toujours avoir bien conscience que nous sommes des bénévoles, quels que soient les liens d'amitié qui se tissent avec la personne que nous visitons. Il faut savoir garder une distance.
Vous n'êtes pas la fille de la personne que vous...
Exactement, ni sa petite fille. Et oui. Il ne faut pas tout mélanger. Et il ne faut pas se mettre en danger. Parce que ça peut être... les personnes que nous accompagnons, certaines peuvent être fort âgées, voire fort âgées.
Oui.
On sait qu'à un moment ou à un autre, la relation va être rompue du fait d'un décès.
Oui.
Et il ne faut pas... sortir de là abîmé, et donc il faut vraiment être vigilant.
Mm-hmm.
D'où l'importance chez nous de travailler en équipe.
D'accord.
Je suis d'accord, je rebondis là-dessus, parce que moi j'étais confrontée justement à une résidente que je suivais qui est décédée en juillet dernier, et j'étais la voir à l'hôpital, et c'est vrai que sur le coup, voilà, moi je suis assez jeune, donc j'ai peut-être peu de recul là-dessus. On a tendance à se dire, oh, c'est de ma faute, ça y est, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et non, là, on doit se rendre compte qu'on est bénévole et qu'on l'a fait sourire le temps d'un moment, on lui a donné ce petit rayon de soleil, et c'est ce qui compte.
D'accord. Tout à fait.
Alors, comment, je ne vous ai pas posé la question ni à vous, Julie, ni à Isabelle, mais chez t'as un ami, comment vous avez les noms des personnes, les téléphones des gens, comment...
Alors, on sait très peu de choses sur les résidents. Même...
Là, on est sur les EHPAD, hein.
Oui, voilà.
Voilà.
Dans les EHPAD, moi, j'agis en EHPAD.
D'accord,
mais
d'accord.
De manière générale, on n'a pas à s'immiscer dans la vie des gens. T'as un ami a vraiment une base de données aussi en rapport avec justement des associations ou des EHPAD qui leur disent « cette personne a besoin d'aide, on va vous diriger vers elle ». Mais on connaît très peu de choses. Moi, mon résident, là actuellement, je connaissais son prénom, pas ce qu'il faisait dans la vie, et d'accord. Même les gens de l'EHPAD parfois ne le savaient pas. C'est
d'accord.
Moi qui ai appris à le connaître et à d'accord. Savoir ce qu'il faisait.
Mais alors ça veut dire que t'as un ami qui prend contact avec l'EHPAD qui dit, bah tiens voilà, il y aurait telle ou telle personne,
alors,
ça,
oui.
Ça leur ferait du bien.
Voilà, c'est le directeur, directrice d'établissement qui dit, bon écoutez, cette personne-là va pas bien du tout, on lui en a parlé, est-ce qu'elle a besoin d'un bénévole ? Certains résidents demandent effectivement
d'accord.
Des bénévoles.
D'accord.
Souvent c'est sur la demande, on va absolument pas les forcer.
D'accord. Et au petit frère
le signalement, il peut être d'origine diverse, hein. Ça peut être être des voisins qui remarquent que madame est toute seule, les services sociaux, les services d'aide à domicile, les médecins, voilà. Donc c'est ou même certaines personnes en parlent entre elles. C'est-à-dire que, ah ben moi, il y a des petits frères, parce que il faut dire que les petits frères, nous avons des actions à domicile, etc. Mais il y a aussi des actions collectives qui sont très médiatisées, notamment Noël, le réveillon de Noël, les petits frères. Et donc il y a des affiches partout et il y a des personnes qui nous sollicitent pour elles-mêmes, quoi, en disant je suis toute seule. À ce moment-là, il y a une visite de signalement qui est faite. Parce que c'est pas parce qu'une personne se dit isolée qu'elle est réellement isolée. Mmh. Il y a des personnes qui peuvent voir du monde toute la semaine et juste parce qu'elles s'ennuient le week-end, nous sollicitent. Donc il y a quand même, les besoins sont tellement colossaux qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Mais il y a des visites de signalement qui sont faites avant.
D'accord. Et puis je pense que quand on parle de solitude des aînés, on parle de souffrance liée à la solitude.
Oui, bien sûr. Il y a des solitudes qui sont...
Simplement. Ça peut être de l'ennui, bien sûr.
Il y a des solitudes choisies et assumées. Ça nous arrive qu'on nous signale une personne. Par exemple, une infirmière nous dit telle personne est très isolée, très seule. Il faudrait... Et quand on va la voir, elle dit oui, je suis seule, mais tout va très bien. Merci, je n'ai pas besoin de vous. Voilà.
Maurice, allez-y.
Oui, je voudrais revenir sur deux points. L'histoire de la dépendance entre l'aîné contacté et
le
bénévole. Pour Ligne de Vie, nous avons adopté une façon de travailler un peu particulière, mais que je dirais efficace. Chaque appelant change de personnes appelées chaque semaine ou chaque quinzaine, de manière à... Bon, il y a toujours le contact, mais il n'y a pas ce lien permanent de dépendance. Et le deuxième point sur lequel je souhaiterais un peu rebondir, c'est les personnes qui ne sont pas vraiment isolées, qui ne souffrent pas vraiment de solitude. Parmi la 80-100 personnes que l'on contacte assez régulièrement, peu sont véritablement isolées. Mais bon nombre de personnes nous disent oui, ma fille, ma petite fille, mon fils est venu ce week-end, ils viennent régulièrement. Mais avec vous, le lundi matin, c'est pas la même chose. On peut parler d'autre chose. On peut parler librement, on peut rigoler. Derrière ça, on peut vivre tout simplement.
Julie ?
Oui, je suis entièrement d'accord.
Julie, t'as un ami, donc.
Hein ? Oui, je suis entièrement d'accord parce qu'il y a des personnes en EHPAD, par exemple, qui ont de la famille. Leur famille vient les voir, c'est la famille qui les a placés, mais ils se sentent quand même très seuls. Ou alors, la famille qui les a placés, ils ne s'entendent pas avec. Donc moi, j'ai déjà assisté à des scènes de disputes en EHPAD. Mmh. Donc c'est paradoxal de se dire qu'il y a une grande solitude alors que ces gens ont encore de la famille.
C'est certain que de toute façon, les personnes, les aînés, ne vont pas dire la même chose à une personne de leur famille ou à nous, bénévoles. Mmh. De même qu'on ne va pas dire la même chose à une personne qu'on a en face de soi et au téléphone. J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui se confiaient beaucoup plus volontiers dans une conversation téléphonique qu'en face à face.
Mais dans le face à face, vous pouvez aussi décoder les postures, les mimiques.
On a des formations justement au non-verbal, parce qu'on accompagne des personnes qui ne parlent plus ou quasiment plus. Et il faut savoir décoder aussi des choses un peu subtiles.
On va faire une petite pause musicale avec Dalida, qui nous chante une chanson de Léo Ferré, Avec le temps. Cette chanson de Léo Ferré qui a été écrite et composée en 69 sur l'amour déçu, la fuite des sentiments et la tragique expérience du temps qui efface tout, est inspirée de la propre expérience de vie de Léo Ferré. Avec le temps, c'est interprété ici par Dalida. Je vous rappelle que c'était Yolanda Gigliotti, qui était une chanteuse et actrice française née en 1933 dans une famille italienne installée en Égypte, elle est morte en 1987 à Paris. Nous sommes en 1972.
Avec le temps, et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
Alors, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission Ensemble, tous ensemble, le 2 avril, et avec les petits frères, Isabelle, avec ta une amie, Julie, avec Ligne de Vie, Maurice et Florent, et que nous parlons de la solitude des aînés. Alors, toujours Arnaud Campéon, que je citais au début de notre émission, pour lui, on est seul du fait de la perte du lien social, la perte des relations. On est seul à cause de la faible qualité des relations qui subsistent. On est seul à cause d'un sentiment d'étrangeté au monde et peut-être, in fine, d'un sentiment d'étrangeté à soi-même. C'est vrai qu'on n'aborde pas cette question-là sans formation et Mona Lisa, la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des âgés, si j'ai bien retenu, qui a été portée et qui est aujourd'hui portée sur la région par un petit frère, par d'autres aussi, mais notamment par petit frère. Donc j'aimerais bien, Isabelle, que vous puissiez nous en dire, vous, en tant que petit frère, ce que c'est que Mona Lisa.
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est porté par petit frère, la Croix-Rouge, les centres sociaux. Enfin, il y a beaucoup de gens dans ce dispositif. L'idée de départ qui a été portée par Jean-François Serre, qui était le délégué national des petits frères, de créer des équipes citoyennes partout où il y a des besoins dans le territoire. C'est-à-dire qu'il des personnes qui peuvent se sentir concernées par l'isolement des aînés peuvent se constituer en équipe sans forcément faire partie d'une association et de dire ben nous voilà, on a un projet, on voudrait je ne sais pas organiser un café dans notre village, un café papote une fois par semaine à destination des personnes âgées isolées. Voilà, on va devenir une équipe citoyenne et à ce moment-là, le dispositif Mona Lisa les aide à concrétiser ce projet. Et le but étant que les grandes associations, si grandes soient-elles, ne peuvent être ne peuvent pas être partout sur le territoire, c'est impossible. Donc et notamment dans les territoires reculés.
Donc pour développer ruraux, des actions locales.
Des actions locales, voilà, exactement.
Donc il y a des financements.
Il y a des financements, mais alors là, pour le coup, je ne suis pas très spécialiste.
Notamment pour la formation, par exemple.
Oui, il y a la formation. Les équipes citoyennes peuvent avoir des formations. Il y a ce qu'on appelle la formation socle, où justement, pendant 2 jours, les bénévoles, face à leurs questionnements, et à ce moment-là, on essaye de leur apporter des réponses. Après, ils repartent mieux armés pour démarrer ou continuer leur action.
Alors justement, ces questionnements, j'évoquais tout à l'heure, c'est une, vous me permettez de rebondir sur cette question que je vous pose à tous les quatre. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que bénévole? Ça doit être épuisant quelquefois, ça doit être émotionnant, ça doit être touchant, Florent.
Épuisant, peut-être pas. Épuisant, non, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que ça nous apporte une richesse incroyable, même si, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai vécu dans une société où la famille est large, où on ne rejette personne.
La famille congolaise.
Voilà. Et d'apprendre, d'entendre, d'écouter les aînés qui vous disent des choses, sincèrement, ça nous apporte énormément, ne serait-ce que dans la façon de nous comporter avec l'autre. C'est d'accord. Très important. Et les aînés, je pense qu'ils nous apportent beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que je regrette souvent, c'est les jeunes qui ne font pas très attention. Ils ne savent pas ce qu'ils manquent. Mais ce n'est pas le cas de nos amis, heureusement.
On posera la question à Julie tout à l'heure.
Heureusement.
On posera la question à Julie tout à l'heure.
Ouais. Parce que ils nous apprennent, ils sont détenteurs d'un savoir et d'une connaissance dont nous avons tous besoin.
Alors, quand on a, le lundi matin, puisque c'est le cas à Ligne de Vie, oui. Quand on a, pendant 1h30, 2h, appelé les aînés, quand on sort de cette séance de travail, de travail d'accompagnement, comment on est ?
Heureux.
C'est vrai ?
Ah oui, parce qu'on vient de changer avec quelqu'un qui nous a parler de ce qu'elle a vécu le week-end ou la semaine, et le fait de nous retrouver, d'échanger avec lui, non seulement ça nous fait du bien, mais ça fait du bien également à l'aîné.
Alors Julie, du coup, je rebondis. Quand on est jeune comme vous, qu'est-ce que ça fait comment on vit ça, ce lien, ces rencontres que vous faites avec les aînés?
Alors moi, ça me rend heureuse, ça c'est sûr, mais je me sens aussi impuissante, parce que quand je vois tous les autres résidents, quand je vois le besoin qu'il y a, je me dis, il y a un travail immense à fournir et il y a tellement peu de gens. On est déjà à beaucoup, mais c'est qu'une goutte d'eau. Et je me dis, on a encore besoin de tellement de monde.
Donc on a besoin dans ces actions-là de bénévoles. On fera tout à l'heure un petit appel en donnant aussi les coordonnées de chacune de vos organisations. On fera appel aux bénévoles et peut-être aussi au signalement potentiel des gens qui sont dans la solitude, qui peuvent, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent quelqu'un, on prendra un peu de temps pour ça tout à l'heure. Alors est-ce que quand on est jeune, on est conscient de ce que c'est qu'être vieux, qu'être aîné, qu'être...
Alors après moi je sais que très jeune, j'ai été dans les maisons de retraite, j'ai été voir des personnes âgées pour ma famille, des amis, et je me suis rendu compte de l'image qu'on avait de la personne âgée, vraiment un peu sénile, qui fait peur, c'est un peu la grand-mère qui fait peur, qui dit n'importe quoi, et du coup je me suis amusée à analyser cette image-là, et je me dis qu'il y a tellement de facteurs qui font que cette personne se sent seule ou est comme ça. Je me rends compte aussi que chez les aînés, à une époque, la psychologie, il n'y avait pas vraiment de psychologie. Donc ça ressort quand on prend de l'âge. Il y a des choses émotionnelles qui ressortent. Moi, je le vois avec mon résident. Il me partage des choses qu'il n'aurait pas pu partager avec d'autres gens. À l'époque, on n'était pas là-dedans. Et je me dis, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de changer. Moi, j'invite ma génération à changer cette image de l'aîné et de voir tout ce qu'il a à nous apporter. C'est une mine d'or. Et nous, c'est pas parce qu'on est majeur qu'on est forcément adulte et responsable et mature. On a besoin d'aînés, de sages, finalement.
Ça vous enrichit comment ? Qu'est-ce que vous découvrez en partageant avec les aînés ?
Énormément de choses. J'ai découvert avec mon ancienne résidente des histoires de la guerre. Ils détiennent cette histoire que nous n'avons pas connue. Ils détiennent des témoignages. Elle a vécu les bombardements. Elle me racontait tout ça. Et des tranches de vie que nous, on n'a pas, qu'on ne connaît pas.
Alors, je rappelle juste que c'est Amadou Ampateba, un peul malien, qui avait dit à la tribune de l'UNESCO une phrase qu'on entend souvent, quand en Afrique, Un vieil armeur, c'est comme une bibliothèque qui brûle.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et chaque personne âgée, à son échelle, apporte quelque chose. Que ce soit en expérience de vie, que ce soit en culture, que ce soit dans sa vie professionnelle, elle a quelque chose à apporter. Elle ne va pas la dire de la même manière, mais si on arrive à parler avec elle, à communiquer avec elle, elle va nous le dire. Et moi, j'ai vraiment eu des témoignages précieux. J'ai des tranches de vie précieuses que je garderai à vie.
Non, écoutez, j'espère que beaucoup entendent. Je vais vous demander aussi, Isabelle, ce que vous en pensez de ça, mais j'espère que beaucoup entendent le témoignage de Julie, qui est d'une génération qui est l'avenir. Alors, on dit souvent que les jeunes, c'est l'avenir de la France. Moi, je pense qu'avec l'espérance de vie, les vieux, c'est aussi l'avenir de la
Exactement.
France. Mais bon, Isabelle, qu'est-ce que ça vous fait à vous lorsque vous allez rendre
même,
visite?
La même chose qu'à Julie. Je suis très touchée par ce qu'elle dit, parce que quand elle dit, elle raconte des choses que moi, j'ai pas vécues, j'ai vécu une expérience amusante. J'ai accompagné pendant longtemps une vieille dame qui est partie à l'âge vénérable de 102 ans. Et elle me racontait, elle perdait complètement la tête à la fin, mais il y avait des souvenirs qui étaient encore extrêmement précis. Et elle a connu la guerre de 14. Enfin, elle est née en 1912. Hein, donc, et elle se souvenait de sa mère entourant les jambes de bandes molletières de son papa. Et elle me citait une anecdote. J'avais vu ça sur un tableau au musée de la piscine de Roubaix, le douanier soulevant les jupons d'une femme pour vérifier qu'il n'y avait pas de tabac ou de produits de contrebande à la frontière. Et elle se souvenait de son grand-père lui faisant passer du chocolat et du tabac sous ses jupes en provenance de Belgique. Donc c'était très intéressant.
Je vais vous poser une autre question, ou la même question, mais sous une autre forme. Qu'est-ce que ça vous apprend de vous de visiter des aînés? Est-ce que ça vous apprend quelque chose de vous?
Ça me fait relativiser énormément de choses. C'est-à-dire que on est vraiment, quand on va visiter une personne isolée, on est vraiment dans la vérité des choses. Il n'y a pas de fioritures. On va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la relation à l'autre. C'est vraiment, il n'y a que ça qui compte. Ça peut arriver qu'on aille rendre visite à une personne en ayant moyennement envie d'y aller. Ben, j'ai promis d'y aller. Allez, bon, j'y vais. On n'est pas forcément en forme, etc. Je vous jure, on ressort au bout d'une heure. On est reboosté. Moi, je dis souvent aux nouveaux bénévoles, on reçoit bien plus qu'on ne donne. Ça, c'est une évidence.
C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que effectivement, lorsqu'on sort de ligne de vie, sincèrement, on attend que le prochain lundi arrive vite.
D'accord.
Parce que on découvre des choses qu'on ne peut pas avoir tout simplement dans la vie courante tous les jours. Non. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils nous font part de leur expérience, de leur vécu et de leur connaissance. Et par rapport à tout cela, moi, je me suis senti souvent un peu comme, comment dirais-je, c'est comme si je ne connaissais rien de la vie, en fait. Ils m'apprennent. Et le fait d'apprendre comme ça me permet de relativiser, effectivement, de voir mon comportement différemment par rapport à l'autre, celui qui est en face de moi, parce que des fois, il y a des gens qui réagissent violemment, et puis bon, ça me fait sourire ou je rigole. C'est grâce à tout ça.
Alors, je repense à un article du Parisien en 2003, à la suite de la canicule, qui titrait « C'est 66 morts qu'on n'a pas réclamés », en fait, qui titrait sur justement des personnes qui vivaient tellement dans la solitude et ne comptaient pour personne, et qui finalement sont décédées dans une solitude absolue et n'ont jamais été réclamées. Moi, j'ai envie de vous poser une question, peut-être la dernière de notre émission avant une pause musicale. Est-ce qu'on peut mourir d'ennui? Est-ce qu'on peut mourir de solitude?
Ah oui. Oui, oui, très certainement. Parce que il est arrivé que nous accompagnions des personnes dans un isolement et un dénuement que je pensais pas possible dans nos sociétés, qu'on a vu renaître à la vie littéralement, rien que d'aller partager un moment avec eux, de les convier. On a la chance de pouvoir les emmener en vacances ou en petit séjour, etc. Donc ces personnes-là étaient évidemment prioritaires. De les voir renaître, mais vraiment. Donc, on les prend à un moment où ils sont déjà, mais presque, on parle bien de mort sociale, hein, donc la mort sociale, c'est avant la mort tout court. Hein, donc, ça, il est certain qu'on peut mourir de solitude, hein, ça, c'est sûr.
Julie ?
Oui, je pense, je suis d'accord. Je pense qu'on peut aussi mourir de solitude parce qu'il suffit d'imaginer si on se mettait à la place d'un résident d'EHPAD pendant une journée, à ne parler à personne, à part peut-être des infirmiers qui passent rapidement, mais de ne parler à personne, de ne pouvoir raconter à personne sa journée et finalement d'être seul, d'avoir qu'un discours envers soi-même finalement. Et moi je trouve que par les actions qu'on peut faire avec nos associations, ou pareil, on peut les emmener à la mer, moi j'ai pu emmener au restaurant, on peut faire des projets avec eux. Des petits projets, je me rends compte qu'un petit sourire, un regard, une discussion, c'est une petite bougie mais qui éclaire toute la pièce.
On les voit renaître au fur et à mesure, c'est assez sensationnel. Alors c'est vrai, je voulais reprendre aussi ce qu'avait dit Julie en disant parfois c'est désespérant parce qu'il y a trop de choses à faire et on se sent impuissant. C'est vrai, j'ai souvent l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Vraiment, on se dit mais on va jamais s'en sortir. C'est pour ça que faut y aller quoi. Faut pas se dire il y a trop de trucs, tant pis. Parce que ne serait-ce que un sourire à l'issue d'une visite, déjà c'est un cadeau extraordinaire que la personne nous fait et on se dit qu'on s'est pas déplacé pour rien. Donc on espère que les gens vont prendre conscience de ça de plus en plus et que ça va progresser.
Il y a une prise de conscience très importante aussi de leur faire comprendre que c'est simple de faire sourire simplement quelqu'un. Il faut arrêter d'en avoir peur. C'est quelque chose de nécessaire.
C'est pas compliqué d'être bénévole.
Alors, il y a Florent et Maurice aussi. Oui.
Je voulais ajouter quelque chose. Nous avons des aînés qui sont souvent seuls. Pas de famille du tout. Alors, le fait de discuter avec eux, d'échanger avec eux tout le lundi matin, ça les fait quelque part voyager. Ça les fait sortir un peu de leur isolement. Et croyez-moi, nous, ça nous fait du bien, comme à la personne.
Maurice ?
Oui, Je partage tout ce qui vient d'être dit et moi ce que je ressens c'est, après avoir travaillé de l'autre côté dans le social et au CCAS pendant des décennies, là le côté bénévole du social, je prends de véritables leçons de vie et j'ai entendu les mots sourire, etc., relativiser. Je vais simplement citer très rapidement deux anecdotes que j'ai vécues ce lundi. Une jeune dame de 91 ans qui m'a interrompu tout de suite en disant « Aujourd'hui, c'est moi qui vous appelle ». Mais je dis « Madame, vous n'êtes pas du CCAS ?» Alors on va dire « CSCA ». « Comment allez-vous, Maurice ?» Et c'est elle qui a mené l'entretien. Mmh. Et je vous dis, c'est « Bon, on est boosté ». Mmh. J'ai entendu le mot « relativiser » au niveau des personnes âgées. Une autre personne que je connais depuis longtemps qui me tutoie. Un peu autour de 80 ans, m'a dit « Maurice, je ne vais pas te parler de mes chaussures orthopédiques qui me font mal, mais enfin, bon, on verra dans 2 mois. Mais ce week-end, je suis allé manger un couscous avec une amie, c'était bien. Et dimanche, je me suis rendu salle Marianne au salon des artistes villenevois. Et puis de m'enguirlander parce qu'elle m'a dit « Tu n'y es pas encore allé ?» T'as pas vu et toi t'as le temps d'y aller.
Alors bon, donc on peut dire que finalement c'est le lien qui se recrée.
Exactement.
Voilà. Alors peut-être on va faire un petit tour de table pour vous laisser donner les coordonnées de vos organisations et puis faire appel peut-être aux bénévoles, mais aussi peut-être à ne pas hésiter à vous appeler pour signaler, ne pas hésiter à vous appeler pour signaler une personne qui serait en solitude et qui pourrait être intéressée ou pour laquelle ce serait bénéfique. Peut-être on commence par Isabelle et Petit Frère.
Oui, alors évidemment il y a un site Petit Frère des Pauvres, donc sur internet on trouve ça facilement, c'est Petit Frère des Pauvres, tout attaché, Petit Frère au pluriel des pauvres.fr. Et sinon vous pouvez appeler à notre siège.
Attendez, il y a Petit Frère des Pauvres @
Non, ça c'est le site. Ah, petitfrèresdespauvres.fr.
D'accord. Donc là, si des personnes ont de la difficulté à aller sur Internet, vous demandez à vos petits-enfants, à vos voisins.
Voilà,
vous demandez,
Exactement. Voilà. Sinon, vous décrochez votre téléphone et vous appelez au 03 20 74 01 02.
03 20 74 01 02.
Voilà.
Et donc, vous cherchez des bénévoles ?
Ah, tout le temps.
D'accord,
vous cherchez des bénévoles tout le temps.
Et on peut aussi vous signaler si quelqu'un vit dans la solitude et pourrait être intéressé par une visite.
Exactement.
Très bien. Julie, t'as un ami ?
Oui, alors principalement sur le site t'asunami.fr, T-A, chiffre 1, A-M-I.fr. Et aussi sur l'adresse mail, t'asunami@orange.fr. Et on cherche des bénévoles, mais aussi des référents, c'est-à-dire qui peuvent gérer les bénévoles et vérifier que tout se passe bien.
D'accord. Maurice ?
Alors, au niveau de Ligne de Vie, bon, je dirais l'équipe de bénévoles est assez bien fournie, mais tout nouveau bénévole est toujours bienvenu. J'insisterai plus sur la nécessité, l'utilité de signaler les personnes âgées villeneuvoises en situation d'isolement et qu'on pourrait appeler. Alors, pour les signalements, bien contact avec le CCAS, le numéro 03 28 76 52 00.
Très bien. Donc, Florent, c'est les mêmes coordonnées que celles que vient de donner Maurice. Voilà. Alors, notre émission se termine. Je vous rappelle donc que nous sommes ensemble tous les premiers mardis de chaque mois, de 16h à 17h. La prochaine émission, ce sera le 7 mai et nous aborderons le thème des centres sociaux et de leur façon, la façon dont les centres sociaux sur les territoires accompagnent les aînés, proposent des activités et permettent justement de renouer ce lien social. À bientôt, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Au revoir.
Radio Campus 106.